C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Les gens sont quand même particuliers parce que, officiellement, les gens disent « Pourquoi vous parlez de Guillaume Lemaitre-Vierge encore? On est tanné, papapa. » Juste ce matin, j'ai 28 courriels de commentaires sur l'affaire Guillaume Lemaitre-Vierge. Donc, il y a un certain intérêt, on va dire, et c'est notre premier sujet. Alors, cette vidéo avec le mot « haine sur un arbre », est-ce qu'on doit, comme on dit, canceller Guillaume Lemaitre-Vierge? On sait qu'il a perdu le poste d'animateur là, à TVA.
Moi, j'aime beaucoup la réaction de Télé-Québec parce que, tu sais, c'est revenu dans l'actualité hier, c'est pour ça qu'on en parle. Télé-Québec avait fait une grande entrevue avec lui. Ça, c'est la messe de Christian Bégin. Il fait une entrevue d'une heure avec des personnalités. Il fait ça dans une abbaye. Hein. Puis ça prend deux jours à filmer, puis tout, c'est une grosse affaire. Et ils ont décidé de reporter la diffusion plutôt que de l'annuler. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça permet de dire il a commis une erreur, mais est-ce qu'on doit tout de suite passer à la guillotine? Tu sais, bon. J'aime ça. J'aime cette position-là. On te reporte, on verra plus tard. En même temps, on n'est pas content. Mais l'idée d'annuler à tout jamais, j'ai des réserves. Parce que, tu sais, en droit du travail, un employeur, ça, c'est pas du droit du travail, c'est un contrat. OK? Puis je vais m'expliquer plus tard sur le contrat, puis ce que ça signifie d'être animateur, puis tout ça. Mais en droit du travail, les employeurs sont tenus de trouver une peine qui correspond à l'offense. Tu peux pas dire, je te mets dehors parce que t'as fait un commentaire ou parce que, même si t'as volé du temps de travail, je te mets pas dehors. Et automatiquement, t'as pas le droit. Si tu vas dans un tribunal, il va dire, non, tu peux pas le mettre dehors. Fait que il y a une proportionnalité, puis cette proportionnalité-là, ça a pris des décennies à l'obtenir, des centaines d'années. Ben, ça a pris des siècles à ce que le monde devienne humaniste. Avant, t'excommuniais quelqu'un parce que elle avait ceci ou il avait cela. Après ça, ça a pris des décennies, voire des siècles, pour que cet humanisme-là se transfère dans des lois, des règlements, et notamment le droit du travail qui dit, voici, ça prend quelque chose qui est proportionné. Alors, pour cette raison-là, je suis content de la réaction de Télé-Québec.
Nathalie?
Ben moi, tout d'abord, la décision de TVA de congédier Guillaume Lemaitre-Vierge, l'animation de Chanteur masqué, n'a rien à voir avec la culture de l'annulation. C'est une décision qui implique la réputation de l'entreprise. Alors, il a diffusé une vidéo qui avait le potentiel de nuire à l'image de TVA ou de Québécois. Alors, l'entreprise dit quoi? Ben non, il n'y en a pas question. On te congédie. Puis, il y a des clauses comme celle-là, ça existe là dans tous les contrats d'animateurs ou de personnes qui sont dans les médias. Et je suis convaincue que Guillaume Lemaitre-Vierge avait une clause de ce type-là dans son contrat. Alors, c'est pas la culture de l'annulation qui est à l'œuvre ici, mais bien une entreprise qui a pris une décision pour protéger son image de marque. Un employé, puis ça, on parle de Guillaume Lemaitre-Vierge ce matin, mais ça vaut pour tous les employés. Un employé qui publie des insanités sur les réseaux sociaux, qui plonge son employeur dans l'embarras, bien, je regrette, mais l'employeur a toute la légitimité du monde pour sévir auprès de l'employé en question. Alors, pour moi, ça n'a absolument rien à voir avec la culture de l'annulation. La culture de l'annulation, pour moi, c'est autre chose. C'est, par exemple, la censure qu'on va imposer à un auteur. C'est lorsqu'on met à l'index certains ouvrages. C'est lorsqu'on contraint certains professeurs à la censure parce qu'on ne leur permet pas de contextualiser certains ouvrages dont il est question dans leur cours. Pour moi, ça, c'est une culture de l'annulation. Par contre, le phénomène auquel on est confronté dans le cas de Guillaume Lemaitre-Vierge, puis on l'a cité dans le cas de Marie-Pierre Morin, puis dans bien d'autres cas, c'est le tribunal populaire. Le tribunal populaire qui a fait son apparition dans l'espace public, je ne saurais dire quand, mais clairement, les gens s'expriment de manière très sentie. Il y a beaucoup de gens qui sont très volubiles sur les réseaux sociaux, mais également dans l'espace public. Dans le cas de Guillaume Lemaitre-Vierge, t'as ceux qui le croient, qui croient ses excuses, qui pensent qu'on va trop loin, puis t'as l'autre groupe qui dit ben voyons donc, c'est du grand n'importe quoi, ce gars-là a dit des idioties, puis il faut le punir, puis ça n'a pas de bon sens ce qu'il a dit. Puis souvent, les gens qui expriment ce genre de point de vue vont le faire de manière pas trop subtile, tu sais, c'est comme ils utilisent des qualificatifs qui sont assez directs. Alors, pour moi, la culture d'annulation ici, ça n'a absolument rien à voir. Maintenant, Luc et Paul, est-ce que il est condamné à perpétuité à la punition, Guillaume Lemaitre-Vierge. Il y a certains qui croient, comme Pierre Gens, que j'ai reçu à l'émission hier, qu'il s'est acheté un déficit de réputation pour les 10 prochaines années, c'est-à-dire qu'il va avoir de la difficulté à se trouver un contrat pour les 10 prochaines années. Moi, j'irai pas jusque-là. C'est-à-dire que, est-ce que ça va prendre 3 ans, 5 ans? Est-ce qu'il est condamné à tout jamais à ne plus occuper de poste ou enfin d'emploi dans les médias? Mais on est capable de pardonner au Québec. C'est ce que je comprends. On est capable de pardonner.
Ben, c'est clair ce que tu dis, Nathalie, que la personne a un contrat en relations publiques, hein, des comédiens, des animateurs, des gens qui sont visibles sur la scène. C'est clair qu'ils doivent être, hors de tout doute, impeccables. Parce que c'est un peu nous. Ils nous représentent. Si on s'assoit devant, on n'a pas le droit de parole d'autre bord de la TV. Là. C'est à travers lui que sa bonne humeur, sa convivialité, sa gentillesse avec les gens, ben, tout ça fait partie de ce qu'on veut voir. Puis si tu as un comportement jugé toxique, ou en fait jugé, oui, toxique dans ce cas-là, tu ne nous représentes plus. Alors c'est vrai que là, tu perds ta job automatiquement.
Mais il y a deux poids, deux mesures, par exemple. Je vais donner quelques exemples rapides. Bon, tu prends Guillaume Lemaitre-Vierge. C'est pas la décision du public de le tasser. C'est le diffuseur qui estime que ça nuit à l'image puis que ça va avoir un impact chez les commanditaires. C'est aussi bête que ça, puis c'est de même que ça fonctionne. Éric Lapointe, violence conjugale, il a quand même poursuivi sa tournée au Québec, là. Il a fait les festivals, il a continué comme si de rien n'était. C'est comme si le public a dit, on comprend, c'est arrivé, c'est une erreur, il a payé sa dette, merci, bonsoir, la vie continue. Julien Lacroix, qui est un humoriste qui a fait un spectacle, les gens le pourchassaient pour l'empêcher de revenir. T'sais, on n'est pas obligé d'aller voir Julien Lacroix, mais est-ce qu'on l'empêche pendant 25 ans de faire son métier? C'est un peu ça aussi. On dirait qu'il y a, espèce d'évaluation très variable.
Très arbitraire.
Ouais, très arbitraire, ouais, exact.
Mais tu sais, c'est comme, je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf qu'un point, j'ajouterais un point, c'est qu'il y a un cumul. Tu sais, c'est que...
Ouais.
Tu sais, les gens qui parlent leur popularité commencent à te parler des chemtrails comme l'a fait Lucie Laurier au début de sa carrière, puis des vaccins. Mais il me semble qu'on t'a pas nommé responsable du laboratoire scientifique sur les émissions des voies des avions. Non. Dernière fois, j'ai checké ça, là. Toi, t'avais fait des publicités quand t'étais jeune, puis après ça, t'es devenue actrice, etc. Je vois nulle part que t'es une scientifique ou un scientifique contre les vaccins, tu sais. Et ça fatigue. Ça fatigue. De le cumul, de faire des déclarations exubérantes sur ceci et sur cela parce que t'as un micro. Puis Dieu sait que quand il n'y en a pas un, il prend d'ailleurs, là, on se rappelle, qui est monté sur une scène pour donner son opinion qui n'était pas attendue. Là, je veux dire. Donc, cette idée-là de « je suis connu, je m'exprime », moi, je trouve ça fatigant, tabarouette.
Ouais. Mais ce qui est injuste et ce qui est dangereux, selon moi, c'est quand le tribunal populaire prend toute la place. Donnez l'exemple de Julien Lacroix. À la différence d'Éric Lapointe, Julien Lacroix ne s'est pas retrouvé devant la justice.
Non.
Il n'a pas été accusé au criminel.
Non.
Dans le cas d'Éric Lapointe, il est passé à travers tout le processus. Alors, puis dans le cas de Julien Lacroix, 9 victimes alléguées, le gars s'est excusé. Tu sais, à un moment donné, là, c'est comme...
Il y a des victimes qui ont nuancé.
Exactement, tout à fait. Et moi, je me souviens quand lorsqu'on a parlé de ce sujet-là, là, on a reçu des courriels pas très gentils, là, parce que on essayait effectivement de trouver la vérité, parce que c'est
faire
ça.
La part des choses.
Exactement. Le tribunal populaire, il fait rarement. Il fait jamais la part des choses.
Puis aux
États-Unis, jamais.
On a vu Claudine Gay, là, la directrice de Harvard, qui s'est fait mettre dehors après une seule présentation publique, là, qui était malheureuse, mais une seule claque d'or. Tu sais, ça y a pris 40 ans pour se rendre à ce poste-là.
Mais derrière ça, il y a une intolérance qu'exprime le public qui est à fleur de peau, qui s'exprime à fleur de peau. Tu sais, il y a des choses qui passent, puis il y a des choses qui ne passent plus. Ça tombe comme le couperet. Tu parlais, Luc, tantôt, tu disais, une certaine période de l'humanité, on a retrouvé notre humanisme. Mais là, c'est comme si l'intolérance s'exprime de manière... Puis des fois, c'est justifié, des fois, c'est exagéré. Mais en même temps, moi, je trouve je trouve ça très inquiétant, parce que c'est comme si le tribunal populaire se substituait à des mécanismes plus objectifs pour trouver où est la vérité.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, en immigration et en santé, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, propose une visite, un voyage, un cortège non partisan à Ottawa, donc avec M. Legault, avec les autres chefs de parti, pour amener Ottawa à adhérer aux idées du Québec, je le rappelle, en immigration et en santé. Est-ce que c'est une bonne idée, une bonne stratégie, Nathalie?
Quand t'as dit cortège, pas, j'ai pensé à cortège funèbre. On les imagine tous, hein, partir à Ottawa avec la mine basse. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, pas dans le contexte actuel. Tout d'abord, la proposition de Paul Saint-Pierre Plamondon, que j'ai qualifié de petit vite. Hein. Pour moi, c'est le petit vite de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas beaucoup d'expérience sur le plan parlementaire, mais il a les très bons réflexes. Et là, on a fait une autre démonstration cette semaine avec cette proposition. Sa proposition, justement, est dénouée de toute sincérité. Il n'y a pas personne qui pense que Paul Saint-Pierre Plamondon veut se rendre à Ottawa, là, puis main dans la main avec M. Legault, puis on est tous sur la même longueur d'onde. Absolument pas. Parce que moi, je fais une différence entre le travail non partisan à l'Assemblée nationale, puis Dieu sait que les citoyens apprécient, et Dieu sait que ça fait une différence. On l'a vu dans les dossiers comme l'aide médicale à mourir, le dossier de la protection de la jeunesse, plus récemment dans celui du don d'organes, ou encore la réforme de la carte électorale. Ça, c'est extraordinaire. Dans ce cas-ci, Paul Saint-Pierre Plamondon utilise une stratégie pour envoyer ses adversaires dans les câbles, c'est-à-dire que ça a forcé tous les partis politiques à se positionner, et ça les a forcé à dire non. Dans le cas du gouvernement, le gouvernement dit non. Dans le cas de Québec solidaire, on a dit oui, peut-être. Puis dans le cas du Parti libéral du Québec, on dit, ben voyons donc, c'est une très mauvaise idée. Alors, dans ce cas-ci, pour l'image de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est intéressant. Ça projette de lui une image d'un chef constructif qui tente de trouver des solutions, mais honnêtement, son jupon dépasse. Et son désir d'appeler à l'union des forces du Québec relève davantage de l'opportunisme politique que de réelles convictions.
Moi, je dirais qu'il y a une autre raison. Ben oui, c'est sûr. Mais ils doivent tu rire, hein. Ils doivent tu rire. Ils doivent être crampés. Non, mais ils doivent être, ils sont morts de rire. Ah, t'as pas réussi tout seul. On va y aller en gang, tu vas voir. On va amener du chocolat. On va voir si ça marche. Puis là, ça marchera pas plus. Puis ils vont dire, tu vois bien que ça marche pas, ton maudite affaire de fédéralisme renouvelé. Ça prend l'indépendance, c'est ça le plan. Mais, il y a autre chose. Il y a une autre raison pour laquelle, il faut pas qu'ils fassent ça. Faut pas que l'Assemblée nationale s'unisse, derrière la cause, de Legault, parce que c'est une très mauvaise cause. Legault, il y a pas de crédibilité en immigration là. Premièrement, ce qu'il dit, les chiffres sont toujours tronqués, puis pas juste les chiffres sont tronqués, mais ce que lui a répondu Trudeau, il dit attends une minute là. Moi, pour les travailleurs temporaires, je te donne le droit, puis je réaffirme, comme premier ministre canadien, je réaffirme le droit que tu as de refuser un permis de travailleur temporaire même s'il est émis par Ottawa. Ça c'est un. Deuxièmement, il y a un programme pour l'ensemble de l'immigration Québec-Canada, une entente qui date de couture en 1978 à peu près, qui permet de verser au Québec une affaire comme 160, 170 millions par année pour traiter les cas. Troisièmement, je te donne 100 millions de plus pour les réfugiés que tu as en grand nombre, notamment pour l'aide sociale, puis pour les services de l'État, puis je suis prêt à réévaluer cette somme-là. Quatrièmement, j'accepte, on a reformulé le processus pour donner un permis de travail. Dorénavant, on va les mettre en un mois, le permis de travail pour un demandeur d'asile, au lieu de les mettre en un an. Donc, ils vont pouvoir travailler après un mois. Et on va exiger des visas dorénavant des Mexicains, sauf les étudiants puis les travailleurs agricoles. Il est revenu avec une bonne collecte. Il est revenu, tu sais, je veux dire, le rôle d'Ottawa maintenant, en quoi est-ce que le Québec contrôlant son immigration ferait mieux? Je sais que pour Legault, il y aura toujours un demandeur d'asile de trop. Il est arrivé au pouvoir en 2018, il y avait 9500 demandeurs d'asile, il en voulait juste 7500. Puis il était prêt à mener campagne pour le baisser ce chiffre-là de 2000. Il disait que Québec en recevait trop. À l'époque, c'était 9500. Aujourd'hui, qui reste par année, c'est 50 000. Au total, sur le territoire, c'est environ 160 000. Mais à l'époque, à 9 500, il trouvait que c'était trop. Puis, il est prêt à faire attendre des familles dans des réunions familiales 3 ans. C'est rendu à 3 ans, ça pourrait monter jusqu'à 4. Il n'y a pas de limite. Alors lui, il a une vision, là, c'est « je n'en veux pas, c'est-tu clair? J'en veux pas un maudit, c'est-tu clair? C'est ça, j'en veux pas. » Alors, cette position-là est intenable. Et même si on était un pays indépendant, on ne pourrait pas tenir cette position-là.
Mais excuse-moi, Luc, François Legault dit qu'il en veut. Il dit pas ça, là.
Mais ben oui, il dit ça.
Mais non, Luc.
Écoute, je t'invite à donner les chiffres. Quand tu dis, j'en reçois 9500, mais j'en voudrais juste 7500, alors qu'à l'époque, l'Ontario en recevait 5 fois plus, il me semble que c'est ça qu'il dit.
Mais là, la dynamique est complètement inverse. Là. On en reçoit quoi? 65 000 dans une année?
55 % Au total, on en reçoit 50 000 qui restent. Oui.
Mais un éclairage avant, 2 secondes. Comment peux-tu penser regrouper 3 partis politiques? On va prendre les 3 principaux, les 4, là, qui ont des visions complètement différentes. quand tu prends le Parti libéral sur l'immigration, Québec solidaire sur l'immigration, le Parti québécois qui est probablement celui qui en souhaite le moins, c'est ce que défend Pierre Saint-Paul Plamondon, et la CAQ, ils s'en vont pas défendre une position commune à Ottawa, là. Je veux dire, c'est comme nous avons quatre façons de voir cette réalité-là. Puis on va amener le fédéral à adhérer à laquelle exactement?
À dire oui à quoi?
Et voilà. Nathalie.
Bien, c'est pour ça que la proposition de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est la bouillie pour les chats. Là. On sait tous que tu l'as dit, Luc, là, et c'est pas subtil pantoute son affaire. Ce qu'il veut, c'est qu'il veut l'indépendance. Puis plus le Québec, le fédéral va dire non au Québec, plus il va applaudir. Puis plus le Bloc québécois aussi va applaudir du côté d'Ottawa. Mais Ottawa et Québec sont capables de s'entendre. La preuve, c'est qu'ils ont scellé l'entente sur les transferts fédéraux, en santé entre autres, 900 millions par année pour les 10 prochaines années. Ça, c'est intéressant. J'entendais le ministre de la Santé ce matin dire, ben c'est pas ce qu'on souhaitait, c'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaitait, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une prévisibilité là pour les 10 prochaines années. On sait qu'il y a 900 millions qui vont entrer d'Ottawa dans les coffres. Alors ça, c'est bien, on peut mieux planifier.
Hey, mais moi, je trouve ça, Nathalie, sur ce point-là que tu viens d'évoquer, là, je trouve ça formidable parce que faut voir qu'ils crachent le 900 millions avant le dépôt du budget au fédéral et que dans ce budget-là, il va y avoir de grandes restrictions budgétaires. Fait que je suis surpris de l'importance du geste là, par... important quand même.
Mais oui, mais pas Paul et Luc, oui. Le Québec était la dernière province où ouais, c'est ça, exactement. Fait que ça, c'est planifié depuis un bout de temps. Mais pour ce qui est de l'immigration, je pense que celle qui a la position la plus sage dans le dossier, bien, c'est la principale concernée, c'est-à-dire la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, qui a déclaré, elle dit, écoutez, moi, je suis prête à m'asseoir avec Ottawa puis à discuter. Puis elle a fait une déclaration en disant, il y a des avancées, des petites avancées sur quatre dossiers qui tiennent à cœur au gouvernement du Québec. Puis j'ai envie de dire à M. Legault, n'oubliez pas votre ministre de l'Immigration. C'est votre principal atout dans le contexte actuel. La bonne nouvelle, c'est que les deux premiers se rencontrent à nouveau le 30 juin. Espérons que cette fois-ci, ce soit à Québec et non à Montréal. Québec, capitale nationale. M. Marchand souhaiterait bien accueillir les deux premiers ministres dans sa capitale nationale. Mais la ministre Fréchette a dit, ben la chicane, là, c'est correct. Là. Mané, c'est pas très constructif. Là, vaut mieux se parler plutôt que se déchirer sa chemise sur la place publique. Comme ça, ça risque de faire avancer les choses.
Merci à tous les deux. On vous retrouve demain.
C'est 23.